Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Michel Bussy
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. À mes côtés, un homme qui manie le suspense et le retournement de situation avec une habileté rarement égalée, l'un des auteurs les plus lus en France, Michel Bussy. Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Vous venez de publier votre nouveau roman « Mon cœur a déménagé ». Alors en comptant celui-ci, ça fait combien au total ?
Ça va faire 19, sans compter les romans jeunesse.
19, ça c'est une bibliothèque quasiment. On va bien sûr longuement parler de cette histoire d'amour, d'amitié, de quête de vengeance. Mais d'abord, je vais vous inviter à commenter l'actualité avec moi. Tout de suite, les informations. À la une de l'actualité, le conflit des agriculteurs. Les annonces de Gabriel Attal sont-elles suffisantes pour mettre fin au mouvement ? Rien n'est moins sûr. De nombreux barrages sont levés à l'heure où nous parlons, mais les jeunes agriculteurs promettent que ces barrages vont reprendre dès dimanche soir. Qu'est-ce que réclament les contestataires ? Nous ferons le point dans ce journal. L'arrestation d'un pédocriminel à Strasbourg, soupçonné de gérer plusieurs forums sur le dark web. Un exploit des enquêteurs, car l'homme avait mis en place de nombreux pare-feux. À l'Open d'Australie, la reine s'appelle Arina Sabalenka. La Biélorusse remporte le tournoi pour la deuxième fois d'affilée. Il y aura également du football et du rugby aujourd'hui. Et puis la météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Vous nous apportez du soleil.
C'est vrai, il fait beau presque partout en France. On a encore quelques poches de grisaille entre le Bordelais et le Midi Toulousain. Et puis des nuages un petit peu encombrants cet après-midi sur la pointe bretonne, essentiellement sur le Finistère ou encore le Morbihan. Pour tous les autres, un beau soleil malgré une baisse des températures, notamment sur la moitié nord. 8 degrés à Lille cet après-midi, 9 à Paris et au Havre, comptez 12 à Valence, 13 à Nantes, 16 à Brive et 18 degrés à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
C'était le premier point de blocage installé par les agriculteurs. Le barrage de Carbonne en Haute-Garonne sur l'A64 est levé. L'instigateur et figure du mouvement, l'éleveur Jérôme Bell, est satisfait des annonces de Gabriel Attal venu le rencontrer hier. Le Premier ministre a promis, entre autres, qu'il n'y aurait pas de hausse de la taxe sur le gazole non routier, que les éleveurs bovins touchés par la maladie MHE verraient leurs indemnités augmenter, que les lois Egalim sur les prix seraient strictement respectées. De quoi satisfaire également Laurent Abadie, lui aussi éleveur bovin en Haute-Garonne.
On a eu quand même un gros effort du gouvernement par rapport aux revendications qu'on a demandées. Bon, c'est pas tout à fait le top, mais bon, ils ont fait un effort et on s'était engagé à respecter les conditions de lever si on avait un geste de leur part. On a quand même une participation sur le GNR.
C'est le gazole non routier.
Gazole non routier, tout à fait, pour faire fonctionner nos véhicules. Ensuite, un plan d'aide pour les élevages touchés à la MHE. C'est la maladie qui a touché nos élevages bovins dans tout le sud-ouest. Je pense qu'on a été quand même entendu et je ne sais pas comment expliquer la réaction de certains agriculteurs par rapport au déblocage de notre part. On y est arrivé, nous, en passant, certes, une grosse semaine en place, mais je pense que tout casser, ce n'est pas la solution.
Laurent Abadie, éleveur de Haute-Garonne avec Valentin Larquier. Le barrage de la 64 est levé, on l'a compris, mais est-ce le cas partout ? La FNSEA promettait hier soir des roulements sur les routes. Un représentant des jeunes agriculteurs annonçait la levée de barrages aujourd'hui pour mieux revenir lundi. Alors où en est-on exactement ? On fait le point avec vous. Clément Terra, bonjour.
Bonjour. Alors il reste une quinzaine de tronçons impactés sur les autoroutes et d'autres points de blocage résistent encore un peu partout, sur des ronds-points notamment. Et c'est le sud de la France qui est le plus impacté encore ce samedi. Sur l'A480 à Grenoble, c'est bloqué au niveau du pont de Catane et dans la direction de Chambéry. Alors c'est un point névralgique car il donne accès aux stations de ski des Alpes. Sur l'A7, la Drôme est impossible à traverser. Les agriculteurs bloquent également l'A9 qui est fermée à la circulation du Vaucluse au département de l'Aude. L'A62, coupure entre Agen et Montauban dans les deux sens. Sur l'A71 en Auvergne, les barrages sont maintenus. Sur l'A10, entre la Charente-Maritime et la Vienne, l'autoroute est coupée entre Saintes et Niort, bloquée à Poitiers. L'A63 est coupée à Bayonne. L'A20 est partiellement coupée. Certains échangeurs sont bloqués en Haute-Vienne et dans le secteur de Montauban. Mais on l'a dit, voilà, il y a beaucoup de barrages qui ont été débloqués, mais les préfectures préviennent la reprise de la circulation ne pourra se faire qu'après vérification de la praticabilité des routes. Alors le déblocage va se faire au compte-goutte. Et puis on vient de l'apprendre, certains véhicules de transport routier sont exceptionnellement autorisés à rouler ce week-end après les difficultés de circulation cette semaine déclenchées par les manifestations d'agriculteurs.
Merci Clément pour ces précisions. Michel Bussy, vous venez de Normandie. Est-ce que vous avez croisé des barrages d'agriculteurs ?
Moi, je voyage beaucoup en train, donc du coup, les trains, ils les ont pas bloqués. Donc, j'ai eu de la chance. Ben, moi, je suis prof de géo. Enfin, j'étais prof de géo pendant toute ma vie à l'université, plutôt en géographie politique. Donc, les géographes, ils ont tendance à toujours remettre ça dans un contexte un peu global. Et moi, le commentaire que j'ai envie de faire, c'est que, en fait, un des gros changements qu'on a eu ces 50 ou 60 dernières années dans le monde, c'est vraiment qu'on est passé d'un monde qui était un monde agricole à un monde urbain. En fait, longtemps, c'était 80% de gens qui habitaient dans le monde rural et 20% en ville. On est passé à plus de 50-50 de gens qui habitent en ville et le processus va continuer. Donc, on a de plus en plus d'urbains et en fait, le gros enjeu, c'est de nourrir la planète. Avec de moins en moins d'agriculteurs et avec de plus en plus de gens qui ont des modes de comportement urbain, qui mangent, mais qui, évidemment, n'ont plus de poules dans leur jardin, ne cultivent plus de tomates, etc. Et donc, ça a complètement changé la façon de nourrir la planète et la France. Et donc, on est resté sur une vision de l'agriculture assez romantique, parfois assez où chacun avait un grand-père agriculteur ou même pouvait lui-même cultiver. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, effectivement, l'agriculture a complètement changé. Et y a évidemment plein de paradoxes. C'est comment nourrir la planète avec une poignée d'agriculteurs qui sont très très peu nombreux et du coup on va vers une agriculture qui nécessairement est plus intensive, plus forte et ça cause évidemment beaucoup de problèmes environnementaux et des problèmes éthiques aussi. Mais on n'a pas la solution d'entrée parce qu'effectivement c'est très compliqué nourrir des métropoles comme Paris ou dans le monde qui font 20 millions, 30 millions d'habitants. C'est évidemment, on n'est plus dans la petite ferme où on allait vendre ses poules au marché d'à côté. C'est toute une logistique qui consiste à nourrir des mégalopoles ou parfois même des centaines de millions d'habitants qui habitent sur des littoraux où il n'y a pratiquement plus d'espace agricole.
Ouais, c'est l'un des enjeux de demain, probablement. Alors, on continue à parler de ce conflit. Dans l'Oise, des agriculteurs ont bien l'intention de continuer à bloquer la 16. Ils ont décidé ce matin de laisser des engins sur place, mais de prendre la route, certains avec leur véhicule personnel, d'autres avec leur tracteur, pour se rendre à Beauvais, où aura lieu un hommage à l'agricultrice Alexandra Sonnac et à sa fille Camille, tuée par une voiture qui a percuté un barrage en Ariège. Bonjour Arthur Pereira.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec un agriculteur sur son tracteur en route pour Beauvais.
Absolument, ainsi dans la petite cabine de Paul, son tracteur vert ouvre la marche escorté par deux véhicules de la gendarmerie. Derrière nous, des dizaines d'engins agricoles et pour le moment, les agriculteurs se font entendre à coups de klaxons sur une autoroute. Vous l'entendez derrière moi sur une autoroute déserte, des sonneries qui risquent de résonner sous les fenêtres du Premier ministre.
La semaine prochaine, on attend des directives du gouvernement. Là, on remonte sur Beauvais, mais c'est pas impossible que dimanche, on ne redescende pas sur Paris.
Bloquer Paris pour alerter le gouvernement, pour vraiment être entendu, c'est ça ?
Ouais, alors bon, on a bien vu Gabriel Attal, il a parlé hier soir. Il a grappiné quelques points, mais pas la globalité de ce que nous, on entend.
Alors en roulant à 40 km/h, j'ai eu le temps d'échanger longuement avec Paul. Le jeune homme de 19 ans demande la baisse des charges, réévaluer le prix du lait, un son de cloche commun entre Paris et Bruxelles. Bref, tout un tas de dossiers sur la paille. En attendant, l'heure aujourd'hui est au recueillement pour rendre hommage aux deux personnes qui ont perdu la vie sur un barrage la semaine dernière. Et écoutez, le convoi vient tout juste d'arriver à Beauvais.
Merci beaucoup Arthur Pereira. J'attendais encore un dernier coup de klaxon qui n'est pas venu, mais on l'a vu, vous étiez avec les agriculteurs en direction de Beauvais. Merci à vous. À Nîmes, les preuves d'amour qui ont été promises par Gabriel Attal n'ont visiblement pas touché le cœur des agriculteurs. Ils étaient hier soir sur un barrage sur l'A9 avant que la manifestation ne dégénère. Nous sommes en direct avec notre correspondant Étienne Baudu. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Bilan de cette soirée, Étienne, 8 véhicules brûlés et le bureau des douanes touché par un incendie.
Oui, il semblerait que plusieurs agriculteurs mécontents du discours du Premier ministre se soient rendus hier soir au bureau des douanes situé à quelques centaines de mètres seulement du barrage érigé sur l'autoroute à la sortie de Nîmes. Et là, vers 19h15, ils défoncent avec des engins agricoles, selon la préfecture, le portail, puis ils mettent le feu à des voitures stationnées sur le parking, 8 en tout, mais pas des véhicules de service, hein, ce sont des véhicules saisis par les douaniers. Le feu se propage alors à la façade du bâtiment administratif, rapidement éteint par les pompiers. Les incendiaires ont-ils pu pénétrer dans les locaux de la douane ? Des investigations étaient en cours ce matin. Le préfet du Gard, lui, condamne avec la plus grande fermeté ces graves dégradations, se fait-il savoir. Sans plus, pour ne pas mettre, semble-t-il, de l'huile sur le feu, une enquête est en cours pour identifier les auteurs.
Merci Étienne Baudu en direct de Nîmes. Alors hier soir, on l'a dit, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de la taxe sur le gazole non routier, que les éleveurs bovins touchés par la maladie MHE verraient leurs indemnités augmentées, que les lois Egalim sur les prix seraient strictement respectées. Notre spécialiste agriculture, Virginie Garin, est avec nous. Bonjour Virginie.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors c'était des mesures qui étaient réclamées par les agriculteurs, mais qu'est-ce qui coince encore aujourd'hui ?
Alors c'est un mouvement compliqué parce qu'il y a des revendications très différentes selon les régions. Le sud-ouest, touché par la maladie des vaches, a obtenu des aides pour payer les frais vétérinaires. Le barrage a été levé. Mais dans les départements céréaliers, en Ile-de-France, en Bourgogne, on se bat contre la jachère que veut imposer Bruxelles. En Bretagne ou dans le Nord, les agriculteurs demandent, eux, la suppression des normes écologiques concernant les pesticides sur les choux de Bruxelles, les endives, la betterave. Les régions viticoles en crise veulent des aides financières. Il y a des revendications aussi sur l'installation des jeunes, la transmission des fermes, la retraite. Donc, beaucoup, beaucoup de réponses à apporter encore.
Il y a au moins une revendication qui les rassemble tous, Virginie, c'est ce qui concerne les prix.
Oui, un revenu décent pour les paysans. Alors, ça va être compliqué aussi parce que les agriculteurs n'ont plus confiance dans la loi. Les réglementations censées les protéger ne sont pas appliquées par la grande distribution et les industriels, disent-ils. Alors Gabriel Attal a annoncé des sanctions contre 3 entreprises, Malo, le fabricant de yaourt, et 2 filiales de Bigard, producteur de viande, qui ne sont pas confirmées d'ailleurs par Bercy ce matin. Alors de toute façon, ça ne va pas suffire. C'est une réforme de fond qu'ils demandent, la même d'ailleurs depuis 30 ans.
Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ?
Donc un répit, on l'a entendu par endroit ce week-end, mais les syndicats appellent à une reprise des blocages dès lundi. Ils ont en ligne de mire le discours de politique générale mardi du Premier ministre devant le Parlement. Alors ils espèrent d'autres réponses et le ministre de l'Agriculture fera lui des annonces dans la semaine, par exemple pour les viticulteurs. Donc ce mouvement, il risque de durer au moins jusqu'en milieu de semaine.
Merci Virginie Garin. Michel Bussy, on l'a bien compris, le territoire n'est pas logé à la même enseigne. On a des revendications disparates selon les régions. Ça parle au géographe que vous êtes.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Et puis les évolutions ne sont pas les mêmes. Si on prend le vin dans le sud, longtemps ça a été prospère. Et puis en Occitanie, par exemple, aujourd'hui, c'est une crise très grave du vin puis qui est globale parce qu'évidemment, on boit moins de vin de table, etc. Donc c'est une crise globale. Si on prend la Bretagne, il faut se rappeler que la Bretagne, après-guerre, c'est une région qui avait à peine de quoi se nourrir. Et puis on a oublié. C'est vraiment l'Europe, la France qui a obligé les Bretons à faire une agriculture très productive et finalement assez polluante avec beaucoup d'élevage de porcs, etc., de lisiers. Et aujourd'hui, évidemment, c'est pas les Bretons qui sont responsables de ça. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de le faire et aujourd'hui, on leur demande des règles inverses qui sont tout à fait logiques parce qu'effectivement, il y a des études scientifiques qui montrent qu'il faut évoluer. Mais c'est pas à eux de trouver la solution quelque part. Il faut évidemment les aider, mais c'est étrange effectivement qu'en moins de 50 ans, on passe d'une agriculture extrêmement productive à pratiquement des injonctions inverses pour les agriculteurs. Donc on comprend qu'en une génération, ils ont vu des injonctions complètement contradictoires.
C'est pas si évident que ça pour eux de s'adapter. Merci pour ces réactions en tout cas sur cette crise agricole. Dans un instant, Arina Sabalenka, reine d'Australie, c'est du tennis. À tout de suite.
Le journal inattendu.
Michel Bussy, Nathalie.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Michel Bussy et Nathalie Renaud.
Dans l'actualité également, l'arrestation d'un pédocriminel à Strasbourg. L'homme, un informaticien à la retraite, avait mis en place d'efficaces pare-feux pour ne pas être repéré. Il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs forums pédocriminels sur le dark web. Thomas Proutot.
Le pédocriminel se croyait à l'abri derrière ses pseudos sur Internet et son utilisation de navigateurs sécurisés. Les enquêteurs de l'office mineur de la police judiciaire ont pourtant réussi l'exploit, épaulé par des services de police étrangers, de remonter jusqu'à lui. Et ce n'est pas un simple consommateur d'images pédopornographiques qu'ils ont cueilli à son domicile mardi matin à Strasbourg. C'est l'hébergeur et le gestionnaire d'une importante plateforme d'échange d'images entre pédophiles. Le dispositif permettait aux utilisateurs abonnés de télécharger ou de mettre à disposition des fichiers illicites sans laisser aucune trace. Le démantèlement de ce forum entrave donc pour quelques semaines la diffusion massive de ces contenus odieux. Pour noircir encore le tableau, l'homme de 64 ans est aussi soupçonné d'avoir agressé sexuellement un enfant de son entourage direct. Il encourt 10 ans de prison.
Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. La loi immigration a été publiée au journal officiel ce matin. Le texte comporte 86 articles, dont 35 ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, principalement des mesures qui avaient été ajoutées par la droite. Emmanuel Macron a promulgué la loi depuis l'Inde, où il était en visite d'État. Une réaction peut-être sur cette loi immigration ?
En tant que chercheur en géographie politique pendant longtemps et travaillant sur les règles, je crois que c'était quand même une grande première sous la Ve République de faire voter une loi en espérant qu'elle soit retoquée par le Conseil constitutionnel. C'est un cas d'école. On verra ce que ça donne. Mais effectivement, là, on est quand même dans quelque chose d'assez unique et pour ainsi dire étrange. Et je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faudra quand même des révisions constitutionnelles parce que c'est quelque chose qui ne peut pas satisfaire les... Enfin, qu'on soit favorable ou défavorable à cette loi immigration, il y a quelque chose qui effectivement ne va pas. On ne peut pas demander à des députés de voter une loi tout en espérant qu'elle soit retoquée.
Le Conseil constitutionnel défasse ce qu'ils ont voté.
Exactement.
Allez, du sport à présent. Et d'abord, le sacre de la Biélorusse Aryna Zabalenka à l'Open d'Australie. Deuxième victoire d'affilée dans ce tournoi du Grand Chelem. La numéro 2 mondiale n'a pas fait de détails. Victoire 6-3-6-2 en 1h16 face à la numéro 15, la chinoise Zheng Qiwen. La 19e journée de Ligue 1 est rien ne va plus à Lyon qui concède une nouvelle défaite sur sa pelouse face à Rennes, 3-2, c'était hier soir. À l'affiche aujourd'hui, Montpellier-Lille à 13h, Nice-Metz à 17h et Marseille-Monaco à 21h. Vous allez suivre cette journée de Ligue 1 ?
Oui, moi je suis le Havre, je suis normand, donc le Havre ils sont bien là, ils sont presque dans la première partie, allez, encore un effort, ils vont être en Ligue des Champions.
Le
Havre en Ligue des Champions serait fort.
Ils vous entendent peut-être et ça leur donne beaucoup d'espoir. Et puis on rappelle que la France s'est qualifiée in extremis pour la finale de l'Euro de handball en battant la Suède après prolongation 34-30. La Suède qui a porté réclamation sur le coup franc du français Elohim Prandi, c'est ce coup franc qui a permis d'arracher la prolongation. En tout cas, en attendant, la France rencontrera le Danemark en finale.
Le journal inattendu de Michel Bussy
avec Nathalie Renoux sur RTL.
C'est maintenant l'heure du portrait. Alors si des auditeurs ne vous connaissaient pas, Michel Bussy, et que je devais vous présenter, je commencerai par leur dire que vous avez vendu plus de 8 millions de livres, que vos romans policiers sont toujours ancrés dans un territoire, souvent en Normandie, votre fief, mais que vous nous faites aussi voyager, pas étonnant pour un professeur de géographie. En 2006, alors que vous enseignez à l'université de Rouen, vous faites vos débuts d'écrivain avec Code Lupin, puis votre carrière décolle grâce à un avion sans aile.
Un avion sans aile. J'ai chanté toute la nuit.
Donner à vos romans des titres inspirés des chansons du répertoire français est devenu un gimmick. De Mourir sur scène à Maman à tort en passant par Trois vies par semaine. Cet amour de la chanson française vous conduit même à écrire des paroles pour Gauvin Serre et ce titre, Que restera-t-il de nous ?
Que restera-t-il de nous ? Quand il n'y aura que distance, quatre murs et une absence, quand le ciel sera trop bas. Il n'y aura plus de toi.
Et bien de vous, il restera cette chanson, un recueil de nouvelles, un scénario de série, L'île prisonnière, et 19 romans dans lesquels vous maniez comme personne le suspense et l'art du twist final. C'est votre marque de fabrique. 19 romans et bien d'autres à venir, puisque comme vos chanteurs préférés, vous gardez le rythme, une publication par an. Contrairement à ce que laisse entendre le titre d'un de vos romans, le temps avec vous n'est pas assassin, il est fertile et créatif.
Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Mais d'où vient cette volonté d'adosser vos romans à des titres de chansons françaises?
C'était un hasard au départ. J'ai commencé par Mourir sur scène, donc qui était un jeu de mots entre la scène et le fleuve et la scène de théâtre. Et puis après, il y a surtout eu Un avion sans aile, où la chanson de Charlie Lescouture, elle est présente dans le roman de façon assez forte. Et donc, j'avais voulu que ce titre, ça soit comme Un avion sans aile ou Un avion sans aile, en remplaçant le L à ILE par
L-E,
la fille. Et voilà. Puis du coup, on a associé mon premier gros succès à un titre de chanson. Et après, quand c'était possible, quand ça avait du sens, j'ai continué de le faire.
Et vous avez continué jusqu'à ce dernier roman qui a été publié en janvier, Mon cœur a déménagé. On en parle avec vous, Michel Bussy, dans votre journal inattendu.
Le journal inattendu de Michel Bussy
avec Nathalie Renoux sur RTL. Le journal inattendu de Michel Bussy
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Tous mes amis sont partis.
France Gall qu'on écoute sur Si Maman Si, une chanson de Michel Berger. Et vous saviez dès le départ peut-être que vous alliez choisir cette chanson avec ce Mon cœur a déménagé pour titre de votre prochain roman?
Oui, c'est vrai. Maintenant, quand j'écoute des chansons, je me dis tiens, ce petit bout de phrase pourrait faire un joli titre, donc j'en ai comme ça un certain stock. Et puis comme ce roman Mon cœur a déménagé parlait effectivement d'une petite fille qui parle à sa mère en fait, qui va essayer de venger sa mère, et bien il y avait toujours Si Maman Si, on a pratiquement l'impression que c'est mon héroïne qui parle. Et puis cette petite bout de phrase Mon cœur a déménagé, je le trouvais assez joli, donc je l'ai gardé.
Alors effectivement, le pitch, c'est une petite fille qui perd sa mère tombée du haut d'une passerelle, a priori poussée par un mari violent et alcoolique. Cette fillette, Follette, est placée et elle grandit en foyer en mûrissant un désir de vengeance. Comment est-ce que naît l'idée d'un roman chez vous, Michel Bussy ?
Moi, déjà, j'adore les romans de vengeance. Alors, on pense toujours à Monte Cristo, ouais, par exemple, évidemment. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Manon des Sources, par exemple, Les Témeurtriers. Enfin, on pourrait en citer beaucoup. Et donc, moi, j'aime bien. Je trouve que il y a une dramaturgie assez forte. Donc, j'avais envie d'en écrire un. Et tout de suite est venue cette idée que cet enfant, ça serait pas un orphelin à la Dickens ou à la Sans Famille. Ça serait une petite fille placée en foyer et qu'allait se construire une autre personnalité pour se venger de tous ceux dont, d'après elle, qui lui ont volé sa vie, qui lui ont volé sa mère. Évidemment, dans mes romans, il n'y a pas juste un méchant qui est identifié dès le départ. Il y a beaucoup de faux-semblants et donc il y a une enquête parce que...
Non, sinon ça ne serait pas drôle.
Bah, exactement.
Alors, contrairement au précédent qui nous emmenait du côté de Charleville-Mézières, votre précédent roman Trois vies par semaine, celui-ci se situe chez vous à Rouen. Et puis, il balaie les années 90. Alors, on va écouter cet extrait des archives d'RTL. Nous sommes fin 1995. La France est dans la rue contre les réformes Juppé sur les retraites et la sécurité sociale.
Fier d'être cheminot, stop à l'insupportable, enterrement de ce plan Juppé comme vous l'entendez, ou encore otage des ordonnances, voici quelques slogans qui reviennent très souvent ici en cette fin de manifestation, place de la Nation, où nous sommes depuis maintenant 2 heures.
Dans ces grandes manifestations de 95.
Bah ouais, c'est vieux maintenant. Et puis on a beaucoup parlé de mai 68. Peut-être qu'il y a une génération qui va plus parler comme ça de l'automne de 2015, qui a aussi marqué un peu une génération parce que c'est les dernières grandes grèves qu'on fait céder un gouvernement. C'est un petit peu un âge comme ça qui a disparu. Et puis plus particulièrement à Rouen, c'est à Rouen qu'est parti ce mouvement. À l'université, moi j'étais un jeune professeur.
1995, c'était Rouen, ça a démarré.
Tout au départ, en octobre, c'est l'université de Rouen qui s'est mise en grève. Donc j'étais, et puis après les universités ont suivi, puis après le plan Juppé, et puis la France s'est bloquée. Donc il y avait un petit clin d'œil comme ça.
Évidemment,
et puis
il
y a eu une nostalgie parce qu'effectivement c'était un peu ma jeunesse, c'est la jeunesse aussi d'une génération. Il y a en faisant tourner ce livre, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ces années, le milieu des années 90 et 95 en fait partie. Ces mouvements.
J'avoue que ça m'a évidemment parlé. J'ai vécu aussi ces grandes grèves de 95. Alors ce roman, vous le dédiez à, je cite, toutes les travailleuses et tous les travailleurs sociaux qui croient encore à la solidarité. Pourquoi encore? Parce que c'est une valeur devenue rare?
Oui, en tout cas, ce qui est peut-être devenu rare, c'est déjà de parler des travailleurs sociaux, et puis surtout de parler de ce qu'ils font, c'est-à-dire la prévention. C'est-à-dire qu'on parle évidemment beaucoup d'effets divers, on parle beaucoup des passages à l'acte, des choses qui ne vont pas, qui ont été ratées, et on parle rarement évidemment des trains qui arrivent à l'heure ou des travailleurs sociaux qui ont bien fait leur travail et donc l'enfant s'est réinséré, l'adulte qui souffrait d'addiction finalement s'est libéré. Enfin, tout ce travail-là qui est la prévention, et je pense que la prévention, quand elle fonctionne bien, on la voit pas, et donc on a tendance à l'oublier, peut-être à diminuer les crédits de la prévention, et voilà. Et donc j'ai beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup d'éducateurs autour de moi qui s'occupent notamment d'enfants en difficulté, et effectivement leur travail il est généralement incroyable au quotidien. Et puis un enfant qu'on sauve, un adulte qu'on sauve, c'est une énorme économie, parce que ça veut dire que l'État, la société va pas avoir à payer pendant toute une vie d'assister cette personne si elle retrouve une autonomie. Donc c'est évidemment un investissement important, mais encore faut-il évidemment en avoir conscience.
Voilà, c'est un hommage aux éducateurs et aux éducatrices qui font un travail formidable. Quand on a préparé cette émission, on vous a demandé ce que vous souhaitiez écouter, et comme très souvent avec nos invités, les Beatles reviennent. Ils sont là avec All My Lovings. C'est votre première découverte musicale, c'est ça?
Oui, je crois que j'avais une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi, donc généralement j'écoutais ce qu'elle écoutait. Donc elle était en plein dans les Beatles forcément, et donc moi j'écoutais discrètement. Et j'ai vraiment un souvenir de l'album rouge et de l'album bleu que j'écoutais en boucle, les vinyles qui grésillent encore. Et voilà, c'est...
Eh bien on aime ça les Beatles, évidemment. Allez, on va les écouter. Le journal inattendu de Michel Bussy continue dans un instant, les titres de 13h.
Le journal inattendu de Michel Bussy avec Nathalie Renaud sur RTL.
RTL. Il est 13h.
Le journal inattendu de Michel Bussy.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
La plupart des agriculteurs ont levé le camp dans la nuit sur les points de blocage après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal hier soir. Ce matin, à 6h, il y avait moins de 40 actions sur 28 départements selon la gendarmerie. Oui, mais la colère des agriculteurs ne redescend pas. Les blocages devraient reprendre en début de semaine prochaine. Plus tôt encore, assurent les jeunes agriculteurs qui ont annoncé vouloir organiser le blocus de Paris et de sa petite couronne dès demain soir. Hier, la mobilisation a dégénéré en périphérie de Nîmes, dans le Gard. 8 véhicules brûlés et un bureau des douanes touché par un incendie. Alors si vous êtes sur la route ce matin, déblocage en cours sur la 64 au niveau de Carbonne en Haute-Garonne. Il n'y a plus de barrage sur la 10 et la 11. Circulation normale sur la 89 entre Lyon et Bordeaux. Il reste encore quelques grands axes barrés dans le sud, notamment la 480 au niveau de Grenoble. Impossible de traverser la Drôme sur la 7. Dans le sud-ouest, coupure enfin entre Agen et Montauban dans les deux sens. En tennis, la Bélarusse Arina Sabalenka, numéro 2 mondial, a été sacrée à l'Open d'Australie pour la deuxième fois d'affilée en écrasant la Chinoise Zheng Qiwen. Et puis en football, la Ligue 1 avec ses deux affiches, Nice face à Metz à 17h et puis à 21h, l'OM reçoit Monaco au Vélodrome. Des matchs à suivre sur RTL Foot avec Eric Silvestro dès 20h et jusqu'à 23h. Et puis la météo, c'est avec vous Michel Bussy, c'est la tradition dans le journal inattendu.
Eh bien, une météo plutôt bien ensoleillée cet après-midi, avec un ciel limpide dans le nord-est et des passages nuageux un peu plus fréquents pour les autres régions. La Bretagne aura même un temps de plus en plus nuageux au fil des heures, notamment dans le Finistère et le Morbihan. Les températures seront comprises entre 6 degrés dans le Jura, 19 degrés dans la Tarn, il fera 8 degrés à Lille, 9 à Paris, 10 à Lyon, 14 à Toulouse, 16 à Marseille et sous un ciel bien lumineux, 8 degrés à Louviers aujourd'hui, c'est la canicule sous la Normandie.
C'est là où vous êtes né, c'était notre petit clin d'œil. Merci Michel Bussy, vous avez parfaitement rempli votre rôle. Maintenant, comme chaque samedi, on prend la mer.
Prenez le large
avec le journal inattendu sur RTL.
Et nous rejoignons l'équipage de Triana, lancé dans l'Ocean Globe Race, une course autour du monde sans assistance. Bonjour Jean Dartuis, vous en êtes à la 3e étape et vous êtes en tête dans le Pacifique Sud. Vous êtes où exactement?
Alors écoutez, pour vous figurer où on est à l'autre bout du globe, on est à peu près au milieu du Pacifique Sud, entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, qui est donc la pointe sud de l'Amérique du Sud. C'est l'espace des océans où il y a le moins de terre. On est vraiment là, au milieu des océans. C'est un océan magnifique, bleu marine avec des vents qui nous poussent depuis le début. Donc on a une étape assez extraordinaire pour le moment.
Alors le Tour du Monde des Ultimes qui se déroule en ce moment même, en même temps que votre course l'a montré, il y a toujours un risque de percuter un objet flottant. Est-ce que c'est aussi votre crainte ?
Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est un des sujets un peu obsessionnels chez nous. Le principal danger pour nous, ce sont les icebergs, étant donné qu'il y a beaucoup d'icebergs qui se détachent de l'Antarctique et qui remontent. Ça, c'est le grand danger pour les bateaux. Et puis après, vous avez d'autres risques qui sont principalement des containers ou des baleines. Nous, on a, depuis le départ, posé énormément de baleines, dont trois à moins de 10 mètres du bateau. Donc ça, c'est un peu la loterie, parce que si vous tapez dedans, ben là, le bateau peut avoir des gros dégâts. Vous parliez de la course des ultimes, ça c'est amusant parce qu'on a eu un échange avec Charles Coudrier qui est en tête et qui va, bien que parti simplement il y a 3 semaines, nous dépasser, probablement aux alentours du 14, donc c'est assez amusant, on va essayer de se saluer, sachant que nous on est sur des bateaux qui sont évidemment beaucoup moins rapides, parce que ce sont des bateaux d'autrefois, d'anciens, et lui il est sur un ultime, donc c'est un peu les deux extrêmes de la course qui vont se croiser aujourd'hui au 14, donc c'est assez émouvant. Hein. Pour nous, de savoir que ces gros bateaux vont nous dépasser aux alentours du Cap Horn.
Eh bien, vous nous raconterez ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean Dartuis.
Merci à vous. Ciao, ciao, à bientôt.
Le journal inattendu de Michel Bussy.
Avec Nathalie Renaud sur RTL.
Michel Bussy, vous êtes un auteur de romans policiers. Ça tombe bien, c'est l'un des genres les plus lus en France. Alors, Mathias Luguin nous a rejoint. Bonjour, Mathias.
Bonjour, Nathalie.
Bonjour à tous. Bonjour.
Pourquoi cette passion des Français pour les polars ? Mathias, vous avez enfilé votre imperméable de détective. Vous avez pris votre pipe, ouais, mis votre chapeau et vous êtes parti mener l'enquête dans
Alors,
la rue.
On met la musique qui va bien.
Ah bah oui.
Merci à notre réalisateur Dany qui sait toujours me mettre en valeur. Alors l'inspecteur Gadget, tu es sympa, mais si on pouvait quand même s'imprégner un petit peu plus de l'ambiance. Ah, tout de suite, ça change. Hein. L'ambiance est sombre, vaporeuse. Alors que bon, il fait quand même un grand soleil aujourd'hui du côté de Neuilly-sur-Seine. Pour commencer notre enquête, on délimite le cadre. Quand on lit un polar, un roman policier, qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce qu'on recherche ?
Tu peux rejoindre l'histoire et essayer de trouver toi-même avant qu'on ait à la fin.
Comment l'auteur a développé son intrigue pour nous cacher ou pour nous envoyer dans des fausses trappes.
Et ça m'évoque aussi le mystère.
C'est trop bien, c'est tout. C'est un bon argument.
Bon alors, comme tout bon livre, on a envie de se transporter, d'imaginer et donc d'enquêter avec les personnages. Dans notre cas, j'ai parlé de livres.
En film, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le crime de l'Orient Express. Je sais pas si vous connaissez.
C'est bon, c'est pas très grave, puisqu'on y revient justement à la littérature. Alors forcément, si l'on se met à chercher les maîtres du genre, là, le nombre de pistes diminue.
Sherlock Holmes, bien sûr, et Agatha Christie.
Non, Maigret, toute la bande, non, mon papa aimait beaucoup.
Et j'ai lu Agatha Christie l'année dernière.
Simon.
Agatha Christie.
Bon, dans ce style littéraire, ce qu'on aime aussi, c'est de retrouver des lieux communs, des personnages très marqués. Le suspect pas très loquace, par exemple.
Non, je ne l'ai pas du tout.
Le commissaire Maigret, vous connaissez pas ?
Bon, comme ça, vite fait, mais...
Ah, voyez que vous voulez.
Bon, je pense que lui, il dira rien. On a bien sûr le caïd qui menace le héros de l'histoire avec des moments de tension.
Mettez pas ce truc trop près de moi.
Ou bien celui qui sait pas tenir sa langue.
Alors mon préféré, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, qu'on a vu lui à l'époque il y a très très longtemps. Enfin, je crois qu'il est moins connu. Le crime de l'Orient Express, il est bien. Puis là, j'ai commencé à lire en anglais, parce que j'avais jamais lu en anglais. C'est super bien. C'est pas évident à lire, mais...
Bon, au moins l'enquête avance. Mais finalement, on sait bien qu'à la fin, on finit par résoudre le mystère. On est surpris, mais le coupable, lui, il est identifié.
J'ai lu du Michel Bussy. C'est vrai que le Michel Bussy se lit bien. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Alors j'en ai lu pas mal de ses romans.
Alors vous l'avez dit Nathalie, le polar c'est l'un des genres littéraires préférés des Français parce que au-delà d'un héritage solide, il a pour limite que celle de l'imagination. J'ai bien peur qu'il s'agisse là d'une histoire sans fin, donc ce qu'on pourrait finalement qualifier de cold case, et pour une fois, c'est que pour le meilleur.
Merci Mathias. Alors moi je vais apporter à votre enquête Mathias. Dans un crime, seule m'intéresse la part de mensonge, de vengeance, de passion destructrice, de douleur et de remords, en résumé, la tragédie. Ça, c'est vous qui le dites, Michel Bussy.
Oui, bah, je crois que si les Français et les lecteurs en général aiment beaucoup les romans policiers, c'est avant tout parce que ce sont des tragédies. C'est-à-dire, c'est à la fois le pire et le meilleur de l'homme. C'est la lutte du bien contre le mal. Et puis surtout, c'est le suspense, c'est-à-dire l'idée qu'on a envie de tourner les pages tout simplement parce qu'on ne connaît pas la fin à l'avance, ce qui est le principe d'une bonne histoire. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, généralement, que ce soit racontée à l'oral dans un film ou dans un livre, elle vous passionne parce que, quelque part, il y a toujours cette part d'inattendu dans la scène d'après ou dans le chapitre d'après.
Ce fameux twist, ce fameux retournement de situation finale, ça, vous en êtes passé maître. Mais est-ce que c'est ça qui dicte votre roman? Quand vous commencez à écrire, est-ce que vous savez exactement comment ça va se terminer?
Oui, c'est vrai que quand je pense à une histoire, au départ, j'ai souvent un début d'intrigue, une intrigue un peu étonnant. Et puis après, effectivement, tout de suite, je pense à la fin. Il faut que j'ai une fin qui ne soit pas décevante, qui soit surprenante. Et quand j'ai mon début, quand j'ai la fin, après, je peux construire mon roman, mes personnages, le lieu. Mais je pars toujours du point de départ et du point d'arrivée. Ça, c'est une nécessité pour moi.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, au cours de ces romans, de personnages récurrents? Il y a des auteurs de polar qui ont un détective ou un médecin légiste, par exemple. Vous, on repart à chaque fois de zéro.
Oui, d'ailleurs, c'est pénible. Il faut à chaque fois que je réinvente des policiers dans chacun de mes romans. Donc,
vous faciliteriez la tâche.
Une galerie de 50 policiers maintenant. Non, en fait, j'ai essayé, puis en fait, ça marche pas avec mon imaginaire. C'est-à-dire que j'aime bien quand le lecteur, il prend un de mes romans, il ne sait absolument pas quel voyage il va faire, et chaque personnage peut mentir, peut trahir, peut mourir. Si vous avez un personnage récurrent, c'est assez rare de le faire mourir, c'est assez rare d'en faire un ignoble traître, etc. Donc, vous vous privez de toute une part de jeu avec l'ambivalence et de jeu. Et donc, moi, j'adore effectivement que même mes policiers, on puisse les soupçonner du pire, ou parfois même je les sacrifie, je les fais mourir à la moitié du livre. Enfin, voilà.
Oui, je vois bien, parce que j'en ai lu où le policier mourait, ou la policière en tout cas. Dans Mon cœur a déménagé, on est aussi sur du roman. Un peu social, puisque justement on a une jeune fille qui vit dans un foyer et vous vous attachez aussi à décrire tout ça. C'est important le lieu où se situe le roman, l'environnement dans lequel se situe le roman.
Oui, puis moi ce que j'aime bien faire dans mes romans, c'est effectivement qu'il y ait toujours une dimension de suspense, policière, d'intrigue, mais de pouvoir ajouter le maximum d'ingrédients. Donc de l'amour, là il y a aussi une grande histoire d'amour tragique, il y a de l'amitié, c'est un vrai récit d'amitié, il y a de l'humour parce qu'elles vont faire toutes les bêtises possibles, ces ados.
Nina est folle.
Donc il y a effectivement une dimension sociale parce qu'évidemment ce sont des gamines de foyer qui vont essayer de s'introduire dans un milieu qui n'est pas le leur, donc ça crée des contrastes, ça crée des milieux qui n'auraient pas dû se rencontrer. Donc j'aime bien d'essayer de mettre beaucoup d'ingrédients plutôt que de me cantonner à un genre particulier qui serait le thriller, qui serait l'énigme à la Agatha Christie. Voilà, j'aime bien du romanesque, en fait.
Voilà, c'est du roman, du polar romanesque. Dans votre sélection musicale, il y avait Born to Run, Bruce Springsteen. Choisi, vous nous avez dit, parce que c'est un hyperactif comme vous, c'est vrai? Vous êtes un hyperactif?
Ouais, je crois que je suis un hyperactif, je dors très peu, j'écris tout le temps, quand j'écris pas, je fais des scénarios, des BD, etc. Ouais, je remplis beaucoup ma vie, donc voilà. J'ai la chance de pouvoir peu dormir.
Un roman par an, le prochain est déjà en cours?
Oui, il y a toujours une part d'avance, voire parfois même, comme j'écris pour la jeunesse, comme je fais des BD, comme je fais des scénarios de films, c'est un roman, mais c'est quand même beaucoup plus d'histoires par an.
Oh là là, quelle imagination, hyperactif et engagé aussi. La cause des migrants en Méditerranée vous tient à cœur. Vous êtes un soutien de longue date de SOS Méditerranée, on en parle dans un instant.
Le journal inattendu de Michel Bussy avec Nathalie Renaud sur RTL.
Le journal inattendu de Michel Bussy
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Michel Bussy, vous habitez la Normandie, mais c'est une association qui œuvre en Méditerranée, que vous soutenez et que vous avez souhaité mettre en valeur dans votre journal inattendu. L'association SOS Méditerranée, créée en 2015 pour venir en aide aux réfugiés qui tentent la traversée. Et nous sommes en direct avec Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée, directrice générale de l'association. Bonjour Sophie Beau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous connaissez Michel Bussy? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré?
Écoutez, non, on ne se connaît pas personnellement, mais on échange avec lui. Il y a des membres de l'association qui ont pu le rencontrer. Et surtout, il nous soutient depuis plusieurs années. Il fait partie de notre comité de soutien. Et il nous soutient aussi financièrement. Et c'est hyper important parce que notre association est née vraiment de la mobilisation citoyenne. Donc, on a vraiment besoin de relais. On a besoin de porte-voix. On est petite association. Et c'est vraiment le rôle que Michel Bussy a pris depuis plusieurs années.
Je vous vois sourire, Michel Bussy. La parole est à vous.
Oui. On va laisser surtout la parole à SOS Méditerranée pour expliquer ce qu'ils font. Mais en deux mots, c'est vrai qu'on résume souvent cette question de l'immigration des migrants à un débat gauche-droite. Et en fait, ce n'est pas le cas du tout. C'est juste une question d'humanisme. Et par exemple, le pape lui-même a rappelé le devoir d'humanité qu'il y avait de ne pas laisser des gens mourir en mer et poursuivre les actualités de SOS Méditerranée. Ils sont révoltés par, effectivement, l'attitude des pouvoirs publics qui empêchent des sauveteurs de sauver des vies en mer. Et ça, je trouve que c'est, quelle que soit son opinion, à un moment donné, on ne peut pas laisser mourir des gens en mer à nos portes, des gens qui n'ont commis aucun crime, qui sont juste des gens qui recherchent une vie meilleure.
Alors Sophie Beau, on va rappeler quelques chiffres. Plus de 2500 hommes, femmes et enfants sont morts ou disparus en Méditerranée en 2023, selon l'ONU, en augmentation de près de 50% par rapport à 2022. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous affrétez un bateau, l'Ocean Viking, qui vient en aide aux réfugiés en difficulté?
Voilà, notre mission, elle est extrêmement simple en théorie, c'est tendre la main, sauver des personnes qui sont en danger de mort en mer et qui essayent de traverser cette Méditerranée. Alors plus précisément, sur l'axe de Méditerranée centrale, entre les côtes de la Libye, la Tunisie et l'Italie. Et c'est là que nous patrouillons avec notre bateau, l'Ocean Viking, à la recherche d'embarcations en détresse pour leur porter secours et sauver la vie de ces personnes. Donc en 7 ans d'opération, nous avons secouru 39 435 personnes différentes qui, sans ce secours, auraient pu vraiment mourir.
Mourir en Méditerranée. Au moment où nous parlons, l'Ocean Viking, il est où?
Il est en train de se diriger vers la zone de détresse. Donc là, on est en train de dépasser Malte pour aller vers le sud de cette zone de Méditerranée centrale. On reste toujours dans les eaux internationales et on patrouille à la recherche d'embarcations. Parce qu'on sait que sur cet axe de Méditerranée centrale, il y a beaucoup d'embarcations qui partent, et y compris en hiver d'ailleurs. Dès que la météo le permet, en fait, il y a des bateaux qui sont poussés à la mer par des passeurs qui sont sans scrupules, des bateaux qui sont totalement inaptes à la traversée de cette longue zone, avec environ 400 kilomètres de haute mer à traverser pour arriver jusqu'en Italie, et c'est absolument impraticable pour ces petits bateaux pneumatiques ou des petites barques qu'on trouve très souvent à la jumelle.
Et c'est là que vous intervenez
pour... C'est là qu'on intervient pour leur porter secours.
Michel Bussy, est-ce que vous iriez, pourquoi pas, sur une mission sur l'Ocean Viking?
Ben pourquoi pas, mais après il faut laisser des gens compétents qui ont vraiment des formations de sauveteurs en mer, hein, de navigation, de médecine évidemment, parce que ce sont des gens qui sont souvent évidemment en hypothermie, parfois avec de très jeunes enfants, donc il faut avoir une compétence, mais effectivement, pourquoi pas, mais effectivement là, mon rôle c'est parfois effectivement, de donner la parole, de porter la parole, et même j'ai écrit un roman qui s'appelait, on l'a trouvé plutôt joli, qui mettait des migrants en mer, donc voilà, donc chacun a son rôle, mais a priori, pourquoi pas.
Sophie Beau, est-ce que vous avez besoin de bénévoles, et de quoi avez-vous le plus besoin en réalité?
Alors des bénévoles, on en a beaucoup à terre, dans des antennes en France, mais aussi dans notre réseau européen, puisqu'on est présent en Italie, en Allemagne, en Suisse et en France. Donc il y a une vingtaine d'antennes de bénévoles en France qui nous aident à porter cette mission de témoignage qui est très importante. Pour le bateau, ce sont des professionnels, des marins sauveteurs. On a besoin de gens qui sont extrêmement formés, aguerris, au travail en mer, et c'est très difficile hein, ces missions de secours en mer, très techniques, donc on les forme, on les entraîne et ils reviennent, donc voilà, ça c'est vraiment des équipages professionnels. Mais ce dont on a besoin aussi beaucoup, c'est de soutien financier, parce qu'en fait les missions de l'Ocean Viking sont portées à 90% par des dons privés, et là c'est vraiment très difficile, ça coûte 24 000 euros par jour, une journée de l'Ocean Viking. Et donc, il faut trouver ces moyens, c'est considérable. Et c'est grâce à la mobilisation citoyenne exceptionnelle, grâce à des concerts, grâce à des événements de soutien, grâce à des donateurs un peu partout, qu'on arrive à trouver ces moyens pour réaliser notre mission.
Effectivement. Eh bien, ceux qui veulent donner le peuvent. SOS Méditerranée, on trouve tout sur Internet, évidemment. Peut-être un dernier mot, Michel Bussy, à l'attention de Sophie Beau.
Bah, les filles parlent d'eux-mêmes. Sauver 40 000 vies, ça justifie en soi effectivement l'action de cette association. C'est-à-dire que si l'association n'était pas là, bah, sans doute que parmi ces 40 000 réfugiés, une bonne partie d'entre eux serait aujourd'hui décédée.
Bah écoutez, merci. Merci Sophie Beau d'être venue porter ce message. On rappelle votre association SOS Méditerranée et ce bateau, l'Ocean Viking, qui part pour secourir des migrants qui sont en difficulté en Méditerranée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Michel Bussy, votre journal inattendu continue sur RTL. On va se quitter un instant avec le titre d'un de vos romans. Que je passe, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Bon, c'est Jean-Jacques Goldman, évidemment. Le titre du roman, c'était
Rien ne t'efface.
A tout de suite dans le journal inattendu de Michel Bussy. Moi, je saigne.
Michel Bussy est l'invité du journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu de Michel Bussy
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Michel Bussy, vous nous avez dit être hyper actif. Vous êtes également passionné de littérature, évidemment, et notamment de ce livre-là.
J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Le petit prince sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin
la
ses couleurs.
La lecture du Petit Prince par Gérard Philippe.
Oui, ça ne nous rajeunit pas, ça. Bon, il y a eu plein d'autres versions par Bernard Giraudoux ou autres. Mais voilà, ça a un peu marqué ma jeunesse, hein, cette version vinyle du Petit Prince par Gérard Philippe. Et oui, bah, j'ai écrit Code 612, qui était un roman qui creusait finalement à la fois les mystères autour de l'écriture du Petit Prince et puis de la disparition de Saint-Exupéry. J'ai essayé de faire le parallèle entre les deux. C'est vrai qu'on dit souvent que le Petit Prince, c'est un roman doudou. Enfin, c'est un roman que, pour certains, il va rester sur leur table de chevet toute leur vie, c'est mon cas, et c'est quelque chose d'assez inexplicable, le petit miracle qu'il y a entre ce petit conte pour enfants et ce qu'il provoque chez certains lecteurs.
Alors, il ne reste pas que sur votre table de chevet, parce que j'ai l'impression que vous en avez des dizaines d'exemplaires dans une bibliothèque qui lui est spécialement consacrée. Hein.
Oui, oui, j'ai commencé comme ça, assez jeune, à essayer de collectionner des exemplaires du Petit Prince dans différentes langues. Et c'est vrai que le Petit Prince est le livre record, qui a le record du monde de traduction, doit être à plus de 500. Donc il n'y a aucun autre livre dans le monde qui ait autant traduit. Donc c'est aussi ce livre, c'est en fait... On se dit parfois c'est une Bible laïque, c'est-à-dire c'est un livre qui a un tirage équivalent à la Bible ou grand texte politique ou religieux, sauf que c'est un petit conte laïque, donc c'est assez joli. Je pense que si Le Petit Prince a ce très grand succès aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est dans un monde qui est un petit peu moins, il y a un peu moins de spiritualité, où les gens croient un petit peu moins en Dieu, et du coup, Le Petit Prince... remplace, les ramène à quelque chose qui est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que la vie a un sens, etc.
Oui, puis c'est un texte qu'on peut lire à plusieurs étages quand on est enfant, puis qu'on redécouvre différemment quand on est adulte aussi.
Exactement, c'est la force des grands textes, c'est effectivement d'avoir comme ça plusieurs sens selon son âge. Ouais.
Est-ce qu'il faut être un grand lecteur pour être un grand auteur ?
Ouais, je pense quand même, enfin je sais pas, mais en tout cas dans mon cas, oui, j'ai commencé à lire beaucoup avant d'écrire, donc je pense quand même que ça aide. Après, dans l'absolu, non, on peut raconter sa propre expérience, sa propre vie, peut-être sans jamais avoir lu un livre, ça doit être possible aussi. Mais enfin, dans mon cas, et tous les auteurs que je connais sont tous des grands lecteurs.
Alors vous avez une autre passion, c'est le football. Écoutez, cette archive date de 1981.
Allez Michel, voilà, oui Michel,
ouais. Oui, Michel! Oui, Michel! Et le voilà, un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
Oui, on est pas...
Pour les plus jeunes de nos auditeurs, il s'agit du coup franc tiré par Michel Platini face aux Pays-Bas en 1981. Un premier but pour une victoire 2-0 qui ouvre les portes du Mondial 82 au bleu. C'était commandé par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, deux voix magiques du sport français. Elle vous vient d'où, cette passion pour le football ?
Ça a toujours été, toujours, depuis tout petit. D'ailleurs, voilà, 82, enfin, on est vraiment dans... Il y a toute une génération qui a frissonné, parce qu'avant 82, vraiment en foot, en tout cas, au niveau de l'équipe de France, on était vraiment nuls.
Ah, oui.
Vraiment, on n'avait rien du tout. Et après 82, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, on a toujours eu parmi une des plus grandes équipes du monde. Donc, ça a été un peu un tournant, ce coup franc de Platini. Et c'est un vrai phénomène national. À l'époque, je me rappelle, il y avait même des profs de maths qui avaient calculé la trajectoire, la vitesse, etc. Enfin, c'était un vrai événement, parce que c'est voilà, il y a eu un avant et un après.
Et puis le foot, c'est un peu l'art du twist aussi, c'est un peu comme chez vous. Je pense à la finale de l'Euro 2000. Les Italiens face aux Français sont presque en train de célébrer leur victoire et puis il y a une égalisation et finalement c'est la France qui gagne.
Et oui, le fameux but de Trezeguet. Oui, il y a beaucoup de rebondissements. Bah, dans le foot, il y a une sorte de poésie parce que le monde s'arrête de tourner pour un ballon qui va heurter un poteau, qui va rentrer, qui va pas rentrer. C'est assez fabuleux et c'est même voilà. Donc ce que j'aime bien dans le foot, c'est que c'est sans doute le seul sport où les petits peuvent battre les grands et où jusqu'à la dernière minute quelque chose peut basculer. C'est ce qui le rend magique.
Je n'ai pas lu tous vos romans. Il y en a 19, je le rappelle. Est-ce qu'il y en a un qui se situe dans l'univers du football ?
Il y a souvent des petites références au football. Il y a pas un élément fort, mais il y a toujours des petits clins d'œil.
Un dernier mot, je voulais vous parler de la polémique. Sylvain Tesson, qui soulève la polémique, il parraine le printemps des poètes cette année. Et finalement, il y a une tribune d'un certain nombre d'auteurs qui souhaitaient que ça ne soit pas lui, en raison de son acquaintance avec l'extrême droite. La directrice artistique du printemps des poètes a même démissionné suite à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette tribune hostile à Sylvain Tesson et qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ?
Bah déjà, c'est formidable pour Sylvain Tesson parce que du coup, il va vendre beaucoup, beaucoup de livres, il va faire le buzz. Il a même été qualifié par beaucoup d'hommes politiques du plus grand écrivain français, donc c'est bien pour lui, il en profite. En dehors de ça, je pense que c'est légitime de si on n'est pas content de le manifester. Ce sont essentiellement, je pense, des écrivains poètes qui se sont manifestés, donc des écrivains qui ne sont pas connus du grand public. Donc sans doute que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils se sentaient frustrés ou dépossédés d'une part de ce printemps des poètes qui est une nouvelle fois que je ne connais pas directement, mais qui, je pense, effectivement, compte beaucoup pour eux. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Moi, Sylvain, il est géographe. En tout cas, on le présente comme géographe un peu comme moi, mais on fait deux géographies un petit peu différentes. Lui, il est plus sur un mode contemplatif de la nature éternelle. Moi, je suis plus dans une géographie humaine ancrée dans le temps présent. Voilà, donc, après, évidemment... tout artiste a le droit d'exister, mais là, le problème, je pense, c'est pas du tout Sylvain Tesson. C'est une décision, à un moment donné, politique par rapport à ce printemps des poètes. Et après tout, ceux qui en ont la charge, s'ils sentent qu'ils n'ont pas été respectés dans leur choix artistique, c'est normal qu'ils protestent, tout comme c'est normal effectivement que ceux qui adorent Sylvain Tesson le défendent et défendent d'ailleurs le fait qu'il ne soit pas d'extrême droite, ce qui n'est absolument pas acté a priori.
Effectivement. Bah écoutez, merci pour cette réaction sur l'actualité de la littérature. Merci aussi d'être venu passer cette heure d'émission à mes côtés. La semaine prochaine, nous recevrons l'actrice Judith Chemla. Et puis, je vous laisse dans un instant avec Entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Je rappelle le titre de votre livre, Michel Bussy, Mon cœur a déménagé aux éditions Les Presses de la Cité. Très bonne fin d'après-midi sur RTL.